Chapitre 3. Cette nuit-là, Jules ne rentre pas. Rien de vraiment inhabituel, pas de quoi en faire un drame. Quoique cela déclenche des pulsations dans une veine de la gorge de Méripat et lui soulève l'estomac jusqu'au déjeuner. Jules a 17 ans, une adulte aux yeux du monde. Si elle était un garçon, elle pourrait s'engager dans l'armée. Toutefois, avant de partir au travail, Méripat appelle chez les Morello. Le père de Brenda, Eugène, décroche avec un « allô » plutôt bourru. « Salut Eugène, » dit-elle. « Est-ce que Jules a dormi chez vous? Elle est là ?» Eugène dit qu'il va aller voir. Il revient au téléphone une minute plus tard.
« Ni l'une ni l'autre. »
Elle l'entend avaler quelque chose, du café, elle suppose, puis allumer une cigarette et tirer une longue bouffée.
Elles vont revenir quand elles auront besoin d'argent. Faut que j'y aille, Méripat.
Bien sûr, Jean. Merci.
Dieu te bénisse,
dit-il avant de raccrocher. Dieu te bénisse. On pourrait ajouter ça sur la liste, en compagnie de « c'est comme ça et pas autrement » et « qu'est-ce qu'on peut y faire ?» Des formules faites pour consoler, en enlevant tout pouvoir à celui ou celle qui parle. Des formules qui disent que tout dépend de quelqu'un d'autre. Vous n'avez rien à vous reprocher. Irréprochable, oui, bien sûr, mais impuissant également. Elle se rend à son travail, arrive une minute avant le début de son service, mais cela lui vaut tout de même un regard de travers de Sir Fran, comme si une minute en avance était aussi répréhensible qu'une minute en retard. On dirait que Sir Fran songe à lui sortir un de ses trésors de sagesse à base de « Dieu aime », du genre « Dieu aime ceux qui sont pieux », car en eux vit la sagesse de l'humilité, ou bien « Dieu aime ceux qui sont propres, car dans la propreté, on peut mieux voir le reflet de Dieu ». Celui-là, il l'utilise pas mal avec les employés chargés de nettoyer les vitres. Mais Sir Fran se contente de ronchonner en passant derrière Méripat, et elle la laisse commencer sa journée. Méripat travaille comme aide-soignante à Meadow Lane Manor, situé dans Bay Village, un quartier qui n'arrive pas à décider s'il est blanc, noir ou homo, à deux stations de métro de Commonwealth, juste à la limite du centre-ville. Meadow Lane est un établissement pour personnes âgées, pour personnes ravagées, disent Méripat et ses collègues après quelques bières, dirigé par les filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul. Méripat fait partie de l'équipe du matin, de 7 à 15h30, du dimanche au jeudi, avec une pause d'une demi-heure pour le déjeuner. Elle fait cela depuis 5 ans. Ce n'est pas un mauvais boulot. Une fois que vous avez fait la paix avec l'humiliation qui accompagne le nettoyage des bassins et la toilette quotidienne d'adulte qu'il faut faire tout en gardant un air de servilité, non seulement à l'égard de vieilles personnes grincheuses blanches, mais aussi de quelques vieilles personnes grincheuses noires, ce n'est certainement pas le genre de tâche dont elle rêvait, petite fille, quand elle s'endormait tranquillement. Mais c'est un travail sans surprise. Et la plupart du temps, elle peut le faire en pensant à autre chose. Elle commence sa journée par le réveil des pensionnaires. Puis, en compagnie de Gert Armstrong et Anne O'Leary, elle sert le petit déjeuner. Elles sont à la traîne toute la matinée parce que Dreamy s'est fait porter pâle. Et le service du matin est prévu pour 4 personnes. Dreamy est la seule femme noire de l'équipe et pour autant que Méripat s'en souvienne, elle n'a jamais été malade. Le vrai nom de Dreamy, c'est Calliope. Mais tout le monde l'a toujours appelée Dreamy depuis le cours préparatoire, leur a-t-elle dit un jour. Ça lui va bien. Elle a en permanence cette expression dans les yeux comme si elle était ailleurs. Elle a une voix légère, un peu endormie, et elle se déplace avec la douceur d'une pluie d'été. Son sourire lui fend le visage avec une incroyable lenteur. Tout le monde aime Dreamy. Même Dottie Lloyd, qui déteste les Noirs, admet que Dreamy fait partie des bons nègres. Un jour, Dottie a dit à Méripat
« S'ils travaillaient tous aussi dur qu'elle, et s'ils étaient aussi polis qu'elle, tu parles, personne n'aurait jamais rien à leur reprocher. »
Méripat considère qu'elle et Dreamy sont amies, en quelque sorte. Bien des fois, elles ont passé la pause déjeuner à discuter de leur vie de mère. Mais c'est une amitié entre blanc et noir, pas le genre d'amitié où on échange son numéro de téléphone. Mary Pat demande à Sœur V, une de celles qui sont sympas, si elle sait ce qui se passe avec Dreamy. Dreamy n'est jamais malade. Et le regard de Sœur V prend une expression bizarre, comme celle qu'on s'attendrait à voir dans le regard de Sœur Fran. On y sent une critique et une certaine distance. Elle répond
« Vous savez bien que je ne peux rien vous dire sur une autre employée, Mary Pat. »
Après le petit déjeuner, toujours à la traîne, elles en sont au bassin, ou occupées à aider les personnes qui n'ont pas encore besoin du bassin à se rendre aux toilettes, ce qui signifie souvent avoir à essuyer un derrière, une tâche avilissante que Mary Pat trouve encore moins agréable que le nettoyage des bassins. Si les personnes âgées n'ont pas besoin d'aide pour aller aux toilettes, alors elles n'ont pas besoin d'aide du tout. Et Mary Pat, ainsi que les autres femmes, il n'y a que des femmes aides-soignantes, peuvent passer à la toilette du matin. Pendant sa pause déjeuner, elle appelle chez elle. Mais Jules ne répond pas. Elle rappelle les Morello. Cette fois, elle a la mère de Brenda, Suze. Suze dit non. Elle ne les a pas vues, ni l'une ni l'autre. Mais elle pense qu'elles vont bien finir par revenir.
« Combien de fois, Mary Pat ?»
dit Suze.
« Combien de fois ils nous ont fait ça, ces deux-là ? Et elles finissent toujours par revenir. »
« C'est vrai, » répond Mary Pat. Et elle raccroche. Après avoir repris le travail, tandis qu'elle prépare les plateaux pour le service du déjeuner, Dottie Lloyd parle d'un dealer, un nègre qui s'est fait tuer à Columbia Station. Et ça a bloqué la circulation du métro et des gens qui se rendaient à leur boulot. Pourquoi ils ne pouvaient pas simplement l'enlever des voies et laisser passer les trains ? Il détruit la vie des gens en vendant sa merde. Et en plus, il fout le bordel dans le trafic du matin. Difficile de dire lequel de ces deux crimes est le plus impardonnable.
Ils l'ont trouvé sur les rails de la ligne intérieure, ajoute Dottie. Il aurait au moins pu avoir la décence d'atterrir sur ceux de la ligne extérieure. Comme ça, c'est Dorchester qui l'aurait fait chier et, bon, Dorchester, rien à foutre.
Mary Pat sort du réfrigérateur le grand plateau en aluminium chargé des mini-briques de lait et elle le pose sur la table de travail. Puis elle commence à répartir les briques sur les plateaux en plastique qu'elle porte dans les chambres.
« On parle de qui, là ?»
Dottie lui tend l'édition de l'après-midi du Herald American et Mary Pat le lit par-dessus la table. Un homme heurté par une rame de métro. L'article raconte qu'un certain Augustus Williamson, âgé de 20 ans, a été retrouvé mort en contrebas du quai de la ligne intérieure à Columbia Station tôt ce matin et que la police a confirmé qu'il présentait plusieurs traumatismes crâniens. L'article ne dit pas que ce type noir était un dealer. Mais on peut raisonnablement le supposer. Sinon, pourquoi aurait-il été là ? Pourquoi serait-il venu dans leur quartier ? Elle ne va pas dans le leur. Elle ne connaît aucune personne qui dit qu'elle va aller passer l'après-midi sur Blue Hill Avenue pour acheter des vêtements ou un disque au Skippy Whites. Elle reste de son côté de la ville. De son côté de cette putain de ligne. Alors, est-ce trop demandé qu'il fasse de même ? Pourquoi faut-il qu'il vienne nous embêter ? Vous allez dans le centre-ville ? Bon, très bien. C'est là que tout le monde se mélange, noir, blanc et portoricain. Ils travaillent ensemble, ils râlent contre leur patron, la vie qu'ils mènent, la ville dans son ensemble. Mais après, chacun rentre dans son quartier et dort dans son lit jusqu'au moment où ils doivent se lever le matin venu et refaire la même chose. Parce que la vérité, c'est qu'ils ne se comprennent pas. Ce n'est pas elle, Mary Pat, qui a décidé, ni qui souhaite, qu'ils aient des goûts différents pour la musique, les vêtements, la nourriture qu'ils mettent sur la table. N'empêche, c'est comme ça. Ils n'aiment pas les mêmes voitures, les mêmes sports, les mêmes films. Même la façon dont ils parlent est différente. Les Portoricains parlent à peine la langue du pays. Mais la plupart des Noirs qu'elle connaît ont grandi ici, et c'est comme s'ils venaient d'ailleurs. Ils parlent cet argot bien à eux, et, à dire vrai, Mary Pat le trouve chouette. Elle aime son rythme. Elle aime leur façon d'accentuer dans une phrase des mots différents de ceux des Blancs qu'elle connaît. Leur façon de ponctuer la fin de leurs histoires d'énormes éclats de rire sonores. Mais ça ne ressemble pas du tout au langage qui sort de la bouche de Mary Pat et de ses amis. Alors, si vous ne parlez pas comme nous, a-t-elle envie de demander, et si vous n'aimez pas notre musique, nos vêtements, notre nourriture, nos manières, pourquoi vous venez dans notre quartier ? Pour vendre de la drogue à nos gosses ou voler nos voitures. Il n'y a pas d'autre réponse possible. Tout de même, quelque chose dans cet article chiffonne Mary Pat tout au long du reste de son service. Elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais il y a un truc là qui déclenche une alarme. Mais quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et tout d'un coup, ça lui vient à l'esprit. « Le nom de famille de Dreamy, c'est quoi ? » demande-t-elle à Gert.
« Calliope, » répond Gert.
Mary Pat fronce les sourcils.
« T'as vraiment dit ça ? » ?»«
Bah, quoi ?»«
Calliope, c'est son vrai prénom, »
dit Anne O'Leary avec un soupir plein de mépris.
« Alors c'est quoi son nom de famille ?» demande Gert. « Tu es son amie, » dit Anne à Mary Pat. « Comment ça se fait que tu ne sais pas ?»«
Mary Pat se sent rosir. « Je la connais juste sous le nom de Dreamy. » Il y a un silence qui crée un sentiment, pas tout à fait de gêne, mais pas loin. Et il n'est rompu que lorsque Dottie, contre toute attente, lance.
« Williamson !»«
Quoi ? » ?»«
Le nom de famille de Dreamy, c'est Williamson. » »«
Comment tu sais ça, toi ?»
Je suis une vraie bête pour tout ce qui est détail.
Mary Pat fait le tour de la table pour reprendre le Herald. Elle l'ouvre à la page de l'article afin de le montrer aux autres filles et souligne du doigt le nom du dealer mort, Augustus Williamson. Et alors ? Demande Gert. Gert est plus bête qu'un bus rempli d'attardés conduit par un débile.
Alors, dit Mary Pat, Dreamy parlait toujours de son fils Augie.
Il faut encore un instant aux autres filles.
« Ah merde !» dit Anne O'Leary. « C'est pour ça qu'elle n'est pas venue travailler !» ajoute Dottie.